If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, bienvenue dans le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. Je serai avec vous jusqu'à la fin de ce programme. Nous aurons de la musique, des reportages, des interviews et on commence comme chaque dimanche avec notre personnage de la semaine.
La chronique, le personnage de la semaine, une chronique un petit peu particulière cette semaine, puisque Valentine Sabourot va nous parler d'un personnage qui sort totalement de l'ordinaire. Il est rouge, il se glisse dans la poche et il possède une autorité naturelle qui tient à son expertise dans le domaine de la gastronomie. Est-ce que vous avez deviné de qui nous allons parler ? Nous allons parler du Michelin. Il a 124 ans et un paquet d'étoiles remises ou enlevées chaque année au plus grand chef. Bonjour Valentine.
Bonjour, bonjour à tous. Notre personnage de la semaine n'est pas une personne en chair et en os, mais une institution célèbre dont le jugement peut faire et défaire les carrières dans le milieu de la gastronomie, le Michelin, guide mythique et notre sujet du jour. Nous en parlons aujourd'hui parce que l'édition 2024 vient de paraître en France et qu'elle nous a réservé son lot de surprises, avec notamment 3 étoiles décernées d'un coup d'un seul à table du Castelet, dont le chef Fabien Ferré a 35 ans seulement. C'est une reconnaissance inédite pour un talent aussi jeune.
Quand on parle du guide Michelin, on ne pense pas forcément au guide, Valentine. À l'origine, Michelin, c'est plutôt associé aux pneus ou aux bibins d'hommes, non ?
Absolument. L'entreprise est créée en 1889 à Clermont-Ferrand par André et Édouard Michelin, deux frères, qui croyaient très fort au caoutchouc et qui lancent une nouveauté, le pneu démontable pour vélo. Ensuite, ils équipent les voitures avec succès et c'est parti pour plus d'un siècle d'innovation au service de tout ce qui roule, y compris les avions. En parallèle, naît un personnage reconnaissable entre tous, son corps tout en rondeur est constitué d'un empilement de pneus, c'est le Bibadum, créé en 1894, une mascotte emblématique qui se voit décerner le titre de logo du siècle en 2000 par le Financial Times. Alors en 1900 enfin, Michelin publie son premier guide dont l'objectif au départ était de faciliter la mobilité avec des cartes, des adresses de garage ou de sites à visiter. Au fil du temps, il devient payant, il était gratuit au départ, et il enrichit son contenu. Populaire, il gagne le surnom de guide rouge en raison de sa couleur, mais on s'y réfère en tant que le Michelin, tout simplement.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le guide Michelin est attendu chaque année avec impatience et appréhension.
Et oui, à cause de ces fameuses étoiles, c'est un système de notation qui a été créé en 1926. Alors au début, Michelin n'en décernait qu'une. En 1930, il instaure une échelle avec une deuxième et une troisième étoile. La seule étoile salue une très bonne table dans sa catégorie. 2 étoiles, une cuisine excellente qui mérite le détour. Et 3 étoiles, une cuisine exceptionnelle qui mérite le voyage. Alors d'autres distinctions ont été ajoutées depuis, comme la fourchette qui récompense ce qu'il y a autour de l'assiette, c'est un peu le décorum, le bip gourmand qui distingue le rapport qualité-prix, ou l'étoile verte qui reconnaît un vrai travail sur la durabilité. Pour son guide, le Michelin fait travailler des inspecteurs qui effectuent une ou plusieurs visites surprises dans l'anonymat le plus complet et en payant toujours leur addition, évidemment, pour éviter les traitements de faveur. L'attribution des étoiles est toujours un événement. En gagner ou en perdre peut avoir de très lourdes conséquences sur un chef et son établissement. Face à la pression, certains ont d'ailleurs renoncé à leurs étoiles comme Joël Robuchon, Marc Vera ou Sébastien Bras.
Mais évidemment, Valentine, le guide Michelin n'a pas été exempt de critiques.
Plusieurs livres ont entaché sa réputation. L'inspecteur se met à table de Pascal Rémy et Food Business, la face cachée de la gastronomie d'Olivier Morteau. Le guide a aussi été critiqué pour avoir maintenu son édition de 2021 alors que beaucoup de restaurants avaient dû fermer en raison de la pandémie. Malgré tout, cette année, le revoilà en pleine forme. Présenté le 18 mars à Tours, le palmarès a récompensé en France 639 tables, 33 étoiles, 75 2 étoiles et 534 1 étoile. Parmi les nouveaux étoilés, on ne compte que 6 femmes et seulement avec 1 étoile. En revanche, les moins de 40 ans bénéficient d'un gros coup de projecteur. Parmi eux, évidemment, Fabien Ferré, 35 ans, a reçu 3 étoiles d'un coup, ce qui ne s'était produit que 2 fois auparavant. On l'écoute ici.
Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge, en fait. Voilà. Ça veut aussi dire ça. Et que le travail, faut continuer à se battre. Parce que la vie remplie d'échecs, comme moi j'ai pu vivre avec 2 finales de meilleurs de France, mais je me suis relevé. Et aujourd'hui je suis là, au relais 3 étoiles. Donc c'est magnifique, il faut toujours s'accrocher, il faut se battre.
Et pour terminer, je vais vous donner fin en vous lisant la critique du Michelin au sujet de sa prestation à la tête de la table du Castellet. Je cite... Ancien second de Christophe Bacquier, Fabien Ferré réalise un coup de maître. Sa sensibilité aux produits méditerranéens est celle d'un artiste et rappelle un Matisse qui aurait succombé à la lumière de la Provence. Il réalise une partition végétale et marine de haut vol, à l'image de cette crevette carabineros au citron meyer et velours coraillé, ou de cet encorné à la marjolaine. Ses assiettes épurées et totalement maîtrisées subliment le goût naturel des produits à grand renfort de sauce d'une profondeur mémorable comme cette vinaigrette parfumée à l'aloe vera qui accompagne le filet de maquereau. Alors sur ce, je vous souhaite un bon appétit et un bon dimanche.
Merci beaucoup Valentine Saboureau.
Ils ont oublié, nanana, qu'ils ont assassiné. Ils ont oublié, oh non, non, ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils ont oublié Martin Luther King. Ils ont oublié Marcus Garvey. Mais le sorcier oublie toujours. Les parents de la victime n'oublient jamais. C'est pourquoi
Tiken Jay Fakoly et cette chanson Les Martyrs qui font partie de notre sélection musicale. J'adore le son et le vibe que Tiken Jay Fakoly apporte eh bien à ma playlist personnelle mais également à ce programme. Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants et on va parler de l'importance et de la compréhension de la diversité culturelle des peuples premiers en Australie. Tout de suite après ça.
La riche diversité des peuples autochtones d'Australie est un aspect captivant, défiant la conception erronée selon laquelle tous les peuples aborigènes et insulaires du détroit Torres appartiennent à un groupe homogène. En réalité, les peuples autochtones représentent une mosaïque de cultures, de langues, de modes de vie et de structures de parenté. Dans cet épisode d'Australia Explained, nous allons voir pourquoi comprendre et célébrer cette diversité remarquable est non seulement enrichissant, mais aussi essentiel pour pouvoir interagir avec les communautés aborigènes et insulaires du détroit de Torres et tisser des liens authentiques et significatifs. Les peuples autochtones d'Australie entretiennent un lien profond avec leur terre ou leur pays, ce qui est un élément fondamental pour leur identité et leur sentiment d'appartenance. Pour comprendre pleinement cette connexion, il est nécessaire de reconnaître la diversité qui existe au sein des communautés des Premières Nations. Tante Munya Andrews est une aînée aborigène du pays de Bardi, dans la région de Kimberley, en Australie occidentale. Elle affirme que l'une des meilleures façons de commencer est la carte autochtone de l'Australie.
We invite people to take a look at that because there's about 500 nations that are on that map. So just at a glance, people can just see how diverse we are here in Australia. People don't realize to look at that and go, oh, I didn't realize there were so many groups, which there are so many nations, of course. Each nation has its own language or shares a common language with another. But so that's an awful lot of languages, an awful lot of nations.
Tante Munya, auteure, avocate et co-directrice d'Evolve Communities, souligne l'importance de comprendre qu'une taille unique ne convient pas à tous, surtout lorsqu'il s'agit d'interagir avec les peuples autochtones et de construire des relations significatives.
It's not a case of one size fits all. You've got to be aware of this regional and local diversity and shape your policies and frameworks and programs around that diversity.
Carla Rojas est une alliée autochtone qui travaille étroitement avec Tante Munya. Elle confirme que cette connaissance de la diversité est cruciale pour comprendre l'histoire partagée de l'Australie et pourquoi les écarts entre les peuples autochtones et non autochtones persistent encore aujourd'hui.
In Australia was first colonized and ongoing. It's the lack of awareness of this diversity that has been the core to our problem, many of our problems that exist now. Seeing Aboriginal and Torres Strait Islander peoples as one homogenous group and not acknowledging this rich diversity has meant that, for example, the missions, people have been lumped together, they weren't allowed to speak language, and in some cases people may not have been able to speak to each other because they had different languages.
Selon la nation à laquelle vous appartenez, la culture, la langue, le mode de vie et les structures de parenté diffèrent tous, même l'art, comme le souligne Tante Munya.
I can tell just looking at Aboriginal art. I know exactly which area of Australia it comes from. It's that particular. Most people associate dot painting with Aboriginal culture, but that's just one nation. When you look to Bardi people, my people, we're saltwater people, our art is very much similar to other islanders around the world in that they're geometric paintings which depict the waves and it's not dot painting at all.
Tante Munya souligne par ailleurs que les peuples autochtones sont des experts en matière de multiculturalisme.
People think that it's a new thing, but my people have been dealing with multiculturalism for thousands of years. We've learned to interact with the other Aboriginal groups, learn to speak some of the different languages, but we've had to learn to interact with people that have different customs, different protocols and whatnot. So I always say to people, we are the experts in multiculturalism. And I think government especially needs to come more to First Nations peoples to show them how to do it better.
La docteure Mariko Smith est une femme Yuin avec une ascendance japonaise qui est conservatrice de musées, sociologue visuelle et historienne. Elle explique qu'elle a rencontré de nombreux défis en grandissant en raison du manque de sensibilisation généralisée à la diversité inhérente aux communautés des Premières Nations.
Being someone who visibly looks of, you know, not white and also Asian as well, it was one thing to be seen as Asian in a predominantly white community and all the sort of racism that comes with that. But then when I say that I'm also Aboriginal, that I think takes it to the next level in terms of scrutiny and also discrimination.
Elle dit que de nombreux Australiens ont encore aujourd'hui cette image et ces idées très stéréotypées de peuples autochtones.
There are particular stereotypes and narrow perceptions about what is Aboriginality, who is an Aboriginal person. People are influenced very much around, you know, historical works and books and things that focus on, for example, skin color and sort of level of civilization. People who think that they haven't met an Aboriginal person in their life before, but I believe chances are they would have. It's just, you know, they wouldn't have conformed to people's stereotypes and conceptions.
La Dr. Smith dit que l'Australie doit reconnaître et embraser cette diversité pour être vraiment inclusive.
Need to break out of these sort of stereotypes where they're so limiting. If you're thinking about, you know, Aboriginal people in very sort of simplistic ways, then there's only really simplistic solutions. It's such a complex and diverse concept that requires comprehensive and diverse solutions and thought as well. So there's a lot of misunderstanding, lack of interest, feeling uninformed in the community.
Selon Carla Rogers, ne pas comprendre cette diversité peut induire des erreurs.
When we don't understand that diversity, that's when, as an ally, for example, we can make mistakes. That's when we can say something that could be very hurtful and based on a stereotype, something that could be potentially racist, but generally something that's hurtful and it's a barrier to understanding.
Je recommande de commencer par regarder la carte et de se renseigner sur le pays sur lequel on se trouve et sa culture, tout comme on le ferait si on voyageait à travers l'Europe.
Like you probably would do at home or any time you're traveling, is find out about, oh, whose country am I traveling through? Learning more about the languages in that area. And it's quite easy to do. You can just do an internet search or something to find out, you know, whose country, or you can have the map of Aboriginal Australia. So when you're traveling through Australia, just say you were going from anywhere on the coast, on the east coast. If you're traveling more than 2 hours, say, from Sydney, then you're passing through a different country.
Tante Mounia précise que le Conseil local des terres aborigènes et votre administration locale peuvent également vous fournir un aperçu plus approfondi.
Various land councils around the country, they're a good starting point to, you know, make contact with them and ask questions of them as well. They're very good at letting people know. And interestingly, so are just your local councils as well. They've really come on board now, and most of them are familiar with who are the traditional owners and can at least direct you to the right people.
Tante Mounia ajoute que c'est aussi une question d'auto-éducation.
Learn as much as you can. Engage, especially with First Nations peoples. There's no need to be afraid. Just introduce yourself. Go along to community events. As people begin to see you as a regular visitor, you'll find that they'll open up and may start calling you by your names once you've introduced yourself. But it's just like being brave enough to take that step to get to know your First Nations peoples and develop friendships. It does take time.
La vie comment elle passe, c'était pas hier mais c'était il y a pas longtemps. C'est drôle la vie comment elle trace, je le vois bien dans la glace, j'ai pris quelques cheveux blancs. Mais je me dis que c'est rien ça, que c'est triste que la vie nous trace, c'est juste la peinture du temps. C'est drôle la vie comment elle passe, c'est drôle la vie comment elle passe. C'est drôle la vie comment elle passe.
C'est drôle la vie, cette chanson de Christophe Maé avec bien entendu la voix d'Angélique Kidjo que vous aurez reconnue. Angélique Kidjo, je vous rappelle, qui était interviewée par notre collègue Grégory Pless il y a quelques temps pour sa venue à Warm Adelaide. Et Angélique Kidjo donc qui nous a donné une très belle interview disponible sur notre site internet sbs.com.au/french. Mais vous connaissez l'adresse. Allez, courte pause, on se retrouve dans quelques instants. La deuxième partie d'Europa Voice et nous parlons des relations entre l'Union Européenne et l'Égypte. Mais c'est tout de suite après ça. Deuxième partie d'Europa Voice, je suis toujours avec Nathanaël Bloch. Alors cette fois-ci, on va passer une mer, on va passer de l'autre côté de la mer Méditerranée. On va parler de la relation entre l'Union Européenne et l'Égypte. Alors je disais en intro donc de ce podcast, à coup de milliards, on parle de 7,4 milliards d'euros, cette relation. Expliquez-nous un petit peu tout ça.
Alors l'Union Européenne, Christophe, et l'Égypte viennent de signer un accord de partenariat pour effectivement 7,4 milliards d'euros. La présidente de la Commission s'est déplacée avec plusieurs premiers ministres européens, la première ministre italienne, mais aussi grecque et belge, pour signer cet accord un petit peu historique finalement quand même entre l'Union européenne et l'Égypte, parce que l'Union européenne, en fait, est dans un processus, on a parlé de la Suisse dans les accords bilatéraux, mais dans un processus, en fait, de traiter pays par pays, puisque là, avant l'Égypte, c'était la Tunisie, pour gérer un petit peu, en fait, des politiques propres à l'Union européenne. Là, en l'occurrence, c'est les politiques migratoires. Bah, pour gérer les politiques migratoires, Christophe, il faut aussi que les pays limitrophes à l'Union européenne, et d'une certaine façon, l'Égypte, il n'y a qu'une mer qui les sépare de l'Italie et de plein d'autres pays, a besoin aussi, l'Union européenne a besoin de traiter avec l'Égypte pour s'assurer que ces questions migratoires, que l'agence Frontex puisse avoir les coopérations politiques nécessaires pour réguler son immigration en Europe.
Et l'Égypte, hein, c'est aussi un pays pivot et qui est très important dans la politique au niveau du Proche-Orient. C'est vraiment important d'avoir l'Égypte comme un allié, puisque c'est vraiment un pays qui a un rôle à jouer pour la paix dans la région là-bas.
Oui, effectivement, Christophe. Alors, il y a évidemment le
Est-ce qu'on en parle de ça au niveau du européen? Est-ce que ça fait aussi partie des discussions et du rôle que l'Égypte pourra jouer pour l'Europe?
Évidemment, il y a en toile de fond de cet accord qui vient d'être signé entre l'Union européenne et l'Égypte, le conflit en cours entre Israël et le Hamas à Gaza, parce qu'il y a cette crainte aussi de réfugiés palestiniens. Mais c'est finalement une seule partie de ces migrations, parce qu'il y a aussi la question, par exemple, des Soudanais, et des immigrants clandestins soudanais, des immigrants clandestins libyens.
Les yéménites aussi.
Et yéménites. Et puis sur cette question de la sécurité, il y a aussi toute l'instabilité en ce moment en mer Rouge et ce conflit à peine larvé avec les Houthis qui font que aussi, d'un point de vue là purement économique, l'Égypte pâtit de ces conflits.
Ouais, tout à fait.
Et donc, cette enveloppe budgétaire, parce qu'il y a une partie qui est pour gérer ces problèmes et renforcer ces questions de migration, mais il y a aussi une partie aussi d'aide économique à l'Égypte. Ben, ça tombe à pic pour le pays qui justement souffre en fait de cette instabilité régionale sur plusieurs fronts en ce moment.
Et c'est reçu comment au Caire?
Alors au Caire, c'est plutôt bien reçu. Hein. Finalement, c'est une aide qui vient encore une fois dans un bon timing. C'est plutôt au niveau de l'Union européenne, Christophe, où certaines voix s'élèvent.
Vous m'étonnez.
pour dénoncer en fait un accord avec un régime, il est vrai, autoritaire. Hein, depuis qu'il est au pouvoir, Al-Sisi, il y a eu quand même le renforcement de certaines lois qui d'ailleurs ne sont pas forcément alignées avec les prérequis que l'Union européenne demande notamment à certains pays pour
j'allais vous
bénéficier
poser cette question.
De ces aides. Et puis aussi, il y a un côté quand même où on achète un peu la coopération, en l'occurrence migratoire. Est-ce que cette enveloppe de 7,4 milliards, c'est pas une façon effectivement d'aider l'Égypte, mais aussi d'acheter cette coopération et de fermer un peu les yeux sur des problématiques notamment liées aux droits humains, où encore une fois, l'Europe se targue plutôt d'avoir un rôle modèle dessus, et puis là, ferme un peu les yeux, parce qu'il y a ce besoin, il y a cette réelle politique, on en revient toujours, Christophe, cette réelle politique au niveau des questions migratoires.
Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est aussi le rôle de Ursula von der Leyen, c'est elle qui aussi porte le drapeau de cette initiative, je serais tenté de dire, et on le disait en première partie de Europa Voice, ça vient encore une fois avant les élections européennes, ça montre pas mal d'action, en tout cas sur le papier d'Ursula von der Leyen. Il y a aussi un élément politique pour l'Europe.
Il y a un élément très politique, Christophe. Si on prend juste le mois de mars 2024, Ursula von der Leyen, c'est quand même la réouverture des discussions avec les pays des Balkans occidentaux, et notamment l'accélération du processus pour la Bosnie-Herzégovine. C'est les accords bilatéraux bloqués depuis 3 ans avec la Suisse qui viennent de reprendre. C'est cette enveloppe budgétaire, financière pour l'Égypte. Donc,
les discussions avec le Canada, hein, le CEDA aussi, qui
le libre-échange avec le Canada. Donc il y a une vraie effectivement proactivité de la présidente de la Commission. Il y a un agenda politique, il y a ces élections du 6 au 9 juin prochain. Mais il ne faut pas non plus simplement penser que c'est sur les questions, j'allais dire, qui vont bénéficier à l'Europe d'un point de vue sécuritaire. Il y a aussi le conflit russe un peu en toile de fond. Il y a la question d'aider l'Égypte à se développer sur les projets d'investissement dans la transition verte et numérique. Il y a la question de l'énergie, parce qu'en toile de fond, il y a aussi toutes ces questions de gaz, par exemple, et d'approvisionnement des routes fluviales commerciales de la mer Rouge. Je fais juste un petit clin d'œil historique, hein, mais la mer Rouge, Ça peut paraître un peu anecdotique, petit, mais c'est de là dont un énorme conflit a eu lieu en 1956 avec la France, l'Angleterre, l'Égypte, Israël.
Pour le canal de Suez.
Le canal de Suez, ça s'est passé dans la mer Rouge, hein, et ça n'a pas impliqué que l'Égypte. Donc en fait, il y a aussi tout ça en toile de fond. Il y a cette instabilité qui fait que l'Union européenne a tout intérêt, encore une fois, à conclure ces partenariats. Là, c'est l'Égypte, c'est venu après la Tunisie, et puis il y a d'autres pays, c'est venu aussi après la Turquie. Il y a aussi un rapprochement finalement plus économique que politique avec la Turquie ces derniers mois. Donc, il y a tout ça en toile de fond. Il y a l'agenda politique, mais il y a aussi la réalité sur le terrain.
Et la Turquie qui joue un rôle prédominant dans les relations avec la Russie également. La Turquie, c'est un peu le cheval de Troie européen pour la Russie, on peut le dire.
Alors, si les Balkans étaient effectivement dans l'antichambre pendant une décennie, la Turquie, elle est dans l'antichambre depuis des décennies, depuis 30 ans. Mais voilà, il y a aussi ça. Hein, c'est la nature a horreur du vide, Christophe. Donc, si c'est pas la Turquie qui prend le lead de la région, c'est une autre puissance. Si l'Union européenne n'est pas proactive pour nouer ses partenariats, c'est le voisin russe, c'est même les Chinois. Donc, effectivement, il y a toutes ces boules de billard à plusieurs bandes qu'il faut maîtriser. Et puis, il y a surtout aussi, la volonté de l'Union européenne, là, pour le coup, de s'afficher comme un partenaire vers une solution de paix dans la région, et donc aller aussi sur le terrain et de montrer à l'Égypte qu'elle est prête à aider pour gérer ce qui se passe à sa frontière, parce que rappelons-le, hein, Gaza, et surtout Rafah, est à la frontière avec l'Égypte. L'Égypte est en train de construire un mur de plusieurs mètres aussi, mais c'est des solutions transitoires. Donc c'est important aussi que l'Union européenne se positionne comme facteur de paix et de stabilité dans la région.
Absolument. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Kouyaté, la chanson de Kan Kellen qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de mars. Allez, courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Deuxième partie de l'entretien que Daniel Kemp avait eu à l'époque en 2008 avec le grand Claude Lelouch. Tout de suite après ça.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill.
Alors, je vous le disais avant les pubs, c'était l'année 2008. Daniel Kemp recevait dans les studios le géant du cinéma français, Claude Lelouch, l'homme aux plus de 50 films. Il était au micro donc de Daniel Kemp à l'époque pour la sortie de son film qui s'appelait Roman de gare, Claude Lelouch.
SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche à 13h. Ou à tout moment, en ligne.
Revenons au thème de Roman de gare, destin croisé au cross tracks. Et on parle naturellement des identités changeantes, des amours, des trahisons, des responsabilités. Vous lancez un coup de peinture sur le parisianisme autarcique du monde de la télévision et des célébrités. Et ça, oui, c'est important de le faire parce que franchement, ça touche presque au ridicule.
Oui, oui, surtout en ce moment. Mais là, maintenant, il y a une surenchère et on n'est pas au bout de nos surprises. Ce que je veux dire, que là, maintenant, il y a un exhibitionnisme indécent. Oui, mais vous savez, tout a un sens, tout est utile, il n'y a rien qui soit innocent. Moi, je suis arrivé à un degré de tolérance incroyable puisque j'ai tellement compris que c'était dans le fumier que poussaient les plus belles roses, vous voyez.
Quelle belle expression, c'est vrai.
Qu'il faut accepter le pire parce que c'est là que vont naître l'essentiel. Donc, j'ai cessé de m'insurger contre certaines choses puisque quelque part, ça prépare l'essentiel, voyez. Donc maintenant, je suis vraiment de plus en plus ancré vivre le présent à fond. Vous savez, la vie, c'est un petit peu comme... Imaginez que je vous emmène au cinéma, puis je vous dis on va rater les 10 premières minutes du film, et puis on va partir 10 minutes avant la fin du film. Ben, vous venez plus avec moi au cinéma, vous dites qu'est-ce que c'est que ce mec? Eh bien, la vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. On est arrivé dans un film qui avait commencé il y a bien avant nous, et on sera obligé de partir avant la fin. Donc, il faut se contenter des séquences qu'on nous montre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se contenter des séquences qu'on va voir. On ne connaîtra jamais le début du film, on ne connaîtra jamais la fin du film. Jamais. Et tous ceux qui vont essayer de passer leur vie à savoir d'où on vient et où on va, vont être très malheureux. Moi, j'ai essayé pendant très longtemps d'essayer de savoir, comme tout le monde, d'où on venait, où on allait. J'ai renoncé. J'aurai jamais la réponse et ça peut me pourrir la vie. Vous voyez? Donc, j'ai décidé de me concentrer maintenant sur le présent et sur les séquences qu'on me propose. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai fait ce livre ces années-là. Donc, je vais essayer de me concentrer sur ces années que j'ai la chance de vivre. Voilà.
Ce qui est la sagesse, d'ailleurs. On revient à la sagesse.
Voilà,
pur,
donc il faut,
tout simplement.
Il faut vivre le présent à fond, et puis ne pas essayer de savoir d'où on vient, où on va, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais, et tout est organisé pour qu'on ne le sache jamais. Et les gens les plus malheureux d'entre nous sont ceux qui veulent essayer de savoir d'où on vient, où on va. Mais en toute chose, hein.
Absolument.
En toute chose, c'est pas simplement au niveau de l'univers, hein, c'est au niveau de la vie de chacun d'entre nous. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on veut savoir d'où il vient et où il va. On s'en fout d'où il vient, même s'il vient de l'enfer, de la prison, du trottoir, on s'en fout. Si au moment où on le rencontre, il est formidable, il faut en profiter, vous voyez. C'est ça le grand problème de l'humanité, c'est qu'on veut trop savoir d'où on vient, où on va, et d'où viennent les gens qu'on rencontre et où ils vont aller. On s'en fout. Il faut les utiliser au moment où ils nous accompagnent. Et puis voilà, puis sans a priori. Mais ça, c'est très très dur à admettre, vous voyez, parce qu'il
y a des organisations et on veut penser durer, et on pense à des concepts qui ne sont pas du tout réalistes.
Voilà, il faut absolument se dire, voilà, si j'ai droit à 10 minutes de bonheur, allons-y, profitons-en, parce que 10 minutes de bonheur, ça vaut 100 ans d'une vie médiocre, oui, largement.
Et c'est le carpe diem des Romains et des Grecs.
Voilà.
Pour les thèmes, on est conscient qu'après ce voyage initiatique, parce que c'est un peu le road movie de la découverte de soi-même, et de ce que l'on veut vraiment. On a l'impression aussi que les personnages sont arrivés à une sorte de sérénité. Enfin, deux des personnages principaux vont s'aimer.
Oui, en tous les cas, ces deux personnages sont pour moi tout ce que j'aime, dans la mesure où cette femme, au départ, elle est insupportable, agaçante, on a envie de la laisser sur une route, vous voyez ce que je veux dire?
Ce qui arrive d'ailleurs.
Oui, ce qui se passe, donc. Ouais. Et puis finalement, c'est une femme d'une curiosité, d'une ingéniosité. Enfin, je veux dire, elle se révèle être une femme curieuse, vous voyez, curieuse et amoureuse de la vie. Et elle fait pas de concessions. Voilà. Mais au départ, j'ai plus essayé de montrer un monstre, un petit monstre de femme, en se disant, putain, pourvu qu'on tombe pas là-dessus, vous voyez ce que je veux dire. Alors que c'est la femme idéale, quoi. C'est la vraie Midinette. C'était un portrait de Midinette. Bon, mais c'est vrai que, pour moi, il y a deux sortes de femmes. Il y a les midinettes et les femmes fatales. Mais les femmes fatales sont des midinettes déçues, vous voyez ce que je veux dire?
Oh, ça, c'est magnifique comme description. C'est des Matahari qui ont échoué.
Oui, c'est ça. Mais toutes les femmes sont des midinettes. Nous, on est tous des midinettes, les hommes aussi, d'ailleurs. Mais c'est vrai que dès qu'on est déçu, on se transforme en femme fatale. Dès qu'on est déçu, on devient méfiant.
Méchant.
Méchant.
Cruel.
Cruel et tout, voilà. Et donc, on va dire que Fanny Ardant est une femme fatale. C'est une ancienne midinette déçue, vous voyez. Et puis il y a Audrey qui est une midinette à 100%, puisque...
Avec sa colère qui est une forme de catharsis aussi.
Voilà, c'est ça. Mais donc ça, et puis d'un côté, il y a Dominique Pinon qui est quelqu'un qui rentre dans la sagesse, qui commence à avoir compris des choses. Mais il les comprend grâce à elle, je veux dire qu'il décide...
Oui, elle est le vecteur par lequel il peut lui aussi passer de l'autre côté.
Voilà, s'il ne rencontre pas cette femme, il reste nègre toute sa vie. C'est elle qui, à un moment
donné, libère.
Le libère et lui donne envie de devenir indépendant, quoi. Donc, les deux personnages avaient besoin de se rencontrer. Ils avaient besoin l'un de l'autre. Il y en a un qui avait besoin que quelqu'un...
L'accouche, littéralement. C'est un accouchement.
Absolument, ils se sont accouchés mutuellement.
Ils se sont accouchés mutuellement. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'en revoyant le film, une victime comme une autre, dans la bouche de cet homme... Il parle de lui comme il parle du reste de l'humanité autour de lui.
Oui, oui. j'ai fait le tour du monde plusieurs fois et j'ai très envie un jour d'aller là-bas.
Eh ben, je crois qu'on vous accueillera à bras ouverts. Et alors là, si vous voulez voir la réalité et voir des gens qui mettent les choses et qui profitent du moment, il y a ça aussi. Claude Lelouch, vous parlez de culpabilité dans ce film, Roman de Gare. Les culpabilités dans le sens que ceux qui apparaissent coupables ne le sont pas autant que d'autres. Et c'est une question de degré, on est tous dedans de toute façon, à un certain moment.
Oui, on est tous le coupable de quelqu'un et l'innocent de quelqu'un, est-ce que je veux dire. Ça devient des valeurs abstraites, est-ce que je veux dire. Surtout vu par un metteur en scène. Moi, dans mes films, il y a des gentils et des méchants, vous voyez. Bon, mais quand j'ai dit couper, je les aime autant les uns que les autres, est-ce que je veux dire.
C'est un peu comme Manu, il disait. Oui. Mais personne n'est coupable, c'est une question de distribution.
Évidemment, voilà, c'est ça. Ben, c'est exactement ça. Donc, il faut faire comme ça. Donc, il faut, hélas, des criminels, il faut des pédophiles, il faut des mecs qui courent le 100 mètres en moins de 10 secondes. Il faut des sales cons, il faut des braves types. Sinon, le spectacle serait pas à la hauteur de ce qu'il est, vous voyez.
Donc, c'est la comédie humaine.
Voilà, donc si on aime le spectacle de la vie, il faut que les méchants soient très méchants. Et sinon, ça n'a pas de sens. Donc, dans la mesure où la mort... c'est la fin du spectacle, et que là, on va tous aller près se retrouver pour boire un coup, c'est quand même formidable de vivre tout ce qu'on est en train de vivre. C'est ça que j'essaie de dire, mais c'est pas facile à dire.
Vous le dites très bien, mais ce qui est étonnant, c'est justement ce dosage entre ce qui est vraiment dramatique, parce que c'est la condition humaine, donc ce titre de roman « Dieu est un autre », et qui devient un tournant. Et puis alors, nous avons Audrey, qui à un certain moment, elle, qui a toujours été victime, qui ne s'aime pas, etc. À un certain moment, elle a pris conscience de quelque chose, de ses valeurs, et sur lesquelles elle se base, et elle se forge une détermination. Et elle dit à cette déesse, ou cette femme qu'elle a tellement admirée, « Je ne sais pas si Dieu est un autre, mais maintenant je sais qu'il y a le diable. »
Bien sûr. «
Il est mort comment, votre nègre ?» C'est une bombe. Mais vous avez aussi l'humour, et j'ai adoré, mais j'ai vraiment adoré quand un des personnages qui joue différents rôles, au début on n'est pas très sûr quelle sorte de personnage il est, parce que il y a toutes ces nouvelles qui viennent de la radio et qui sont plutôt menaçantes, mais alors il décide d'être un généraliste, ils vont faire un jeu de rôle, et il dit « et dire des généralités », et puis il se choisit un nom juif, sa compagne est éberluée et... elle lui demande pourquoi, il dit « j'improvisais ». Et ensuite, il est dans cet engrenage de devoir expliquer la judaïté. Mais en même temps, la fille, sa fille, quand... il y a cette scène extraordinaire. C'est du surréalisme qui pourrait s'apparenter à certains films sud-américains lorsque l'ancien boyfriend revient et elle lui tire dessus. Et elle le chasse. L'expression ébahie de la famille. Qui ne sait plus exactement à quoi s'en tenir. Et la fille qui demande tout à fait réaliste, mais tu devais en épouser combien? On hésite entre l'éclat de rire et puis le moment où on réfléchit et puis l'autre moment où on est choqué, où on a peur. C'est constant.
Non, mais c'est parce que la vie est un quiproquo, hein. La vie est un quiproquo, la vie est un malentendu. C'est pour ça que le théâtre de boulevard a tant de succès. Et c'est pas autre chose. C'est ce que j'ai essayé de faire dans Roman de Gare. J'ai joué sur les quiproquos, sur les malentendus, sur...
des doubles ententes.
Voilà. Et
des personnages qui disent des choses qui sont voilà. À contre-courant ou à contre-sens de la conversation précédente. Mais ils s'expriment et il y a des thèmes qui les unissent.
Non, puisqu'il faut, c'est qu'à la fin, il y a quand même une explication finale, quand même, pour que le spectateur puisse s'y retrouver un petit peu, quand même. Mais c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce film et j'ai hâte de faire les deux prochains, puisque je vais essayer maintenant d'aller encore un peu plus loin dans ce délire et dans ces hasards et ces coïncidences qui font que, je vous dis, je me lasse pas de ce spectacle. Voilà.
Mais nous, on ne se lasse pas de le voir non plus. Puis il fait écho aussi à des choses que nous ressentons et que nous recherchons.
Si je viens en Australie un jour, essayez de me laisser vos coordonnées.
Absolument. Claude Lelouch, merci de cette interview, mère, et encore une fois, bon anniversaire.
Et je suis ravi d'avoir parlé avec quelqu'un qui est si bien rentré dans ce film, parce que il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce film, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont vu toutes ces petites choses. Voilà, ça me fait très plaisir.
On importe ses bagages avec soi lorsqu'on interprète les choses. Et c'est un jeu, ce film aussi, parce qu'il interpelle le spectateur. Il y a des rebondissements qui font qu'on est obligé tout d'un coup de remettre tout à zéro, en se disant, ben non, c'était pas ça. On croyait avoir compris, mais on n'a pas compris. Les dialogues sont tellement serrés. Je crois qu'il faut le voir plusieurs fois.
Non, non, il faut le voir plusieurs fois. Il a été fait pour être vu plusieurs fois.
Eh bien, c'est réussi. Claude Lelouch, merci. Et bonne journée, bon anniversaire de nouveau. Au revoir.
Merci, au revoir.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBSFrench.
Et si on partait dans l'intimité de Serge Gainsbourg, un reportage de notre collègue Johanna Cabot.
Ici c'est chez moi. Je pense que c'est un sitting room, une salle de musique, un bordel, un musée. Un désordre apparent, mais en fait tout est calculé selon des rythmiques particulières ici, des diagonales, des courbes. Ça, c'est Félix le chat, qu'on a trouvé à Los Angeles, que Jane m'a acheté. Alors voilà l'élément jeunesse de, dans ma maison, c'est ces trois filles.
Non, c'était toi, hein. Je dis.
Charlotte, Kate et Jane. Alors ici c'est la bibliothèque, premier étage. Ici il n'y a pas de musique, mais simplement des bouquins. C'est ici que j'écris mon livre.
Le 31 mars 1979, Serge Gainsbourg ouvrait sa maison à Antenne 2 pour une visite dans l'intimité du chanteur et de sa famille. 44 ans plus tard, le 5 bis rue de Verneuil, devenu un musée qui a ouvert sous l'initiative de Charlotte Gainsbourg et en partenariat avec la Maison Saint-Laurent. 5 bis rue de Verneuil, c'est une adresse mythique où se cache l'hôtel particulier de Serge Gainsbourg, donc, qui y a vécu de 1969 jusqu'à sa disparition en 1991. Préservé par sa fille Charlotte, l'endroit est resté figé. Les reliques de son père n'ont pas bougé, les gitanes s'entassent dans le cendrier, les bouteilles de rouge sont à moitié vides, le piano est ouvert, prêt à accueillir de nouvelles mélodies. Du grand salon illuminé par le portrait de Brigitte Bardot à la chambre de style persan où l'on aperçoit les zizi blanches au pied du lit, en passant par le séjour rempli de vinyles et de beaux souvenirs qui se prêtent à l'anecdote, la maison de Serge Gainsbourg semble encore habitée par sa présence magnétique. En avril 2018, Charlotte Gainsbourg soumettait l'idée d'en ouvrir les portes au public lors d'une interview donnée aux Parisiens. Derrière la façade recouverte de graffitis, de dessins et de messages d'admirateurs, les visiteurs peuvent aujourd'hui ainsi admirer tous les trésors accumulés par le chanteur depuis 1969. Arnaud Gaspard fait partie de l'équipe placée sous Arteum qui s'occupe de la librairie et boutique du musée ainsi que la présentation à l'entrée de la maison et du musée Gainsbourg qui a été entièrement créé pour l'événement. Il nous raconte le caractère unique de la visite où le public est accompagné de la voix de Charlotte Gainsbourg.
La maison est une visite immersive, c'est-à-dire que la visite dure une trentaine de minutes et pendant ces 30 minutes-là, vous allez être accompagné d'un dispositif audio avec la voix de Charlotte Gainsbourg qui a été enregistrée pour l'occasion. Donc pendant toute la visite, elle vous raconte ses anecdotes d'enfance, comment elle a vécu dans la maison et elle traite aussi du deuil de son père. Voilà, donc c'est une visite assez émouvante, surtout pour les fans, c'est très fort en émotion. Et une fois la visite terminée, vous accédez au musée. Donc le musée par contre est plutôt centré sur la carrière artistique de Gainsbourg. Vous avez sa discographie, sa filmographie, plus de 450 objets de collection qui sont pour la plupart extraits de la maison, qui viennent directement dans le musée, et vous avez accès au sous-sol aussi à l'exposition temporaire. En ce moment, c'est sur les 45 tours de Je t'aime moi non plus.
On a également retrouvé Capucine qui a eu la chance d'avoir visité la maison de Serge Gainsbourg et qui s'est retrouvée projetée dans une autre époque, une expérience exceptionnelle.
Ce qui m'a le plus impressionnée lors de sa visite, en fait, ça se passe quand on passe le seuil de la porte, en tout cas pour moi, on se retrouve projeté comme dans une machine à remonter le temps, dans une autre époque, on rentre dans une sorte de boîte à trésors et en fait, dès qu'on passe le seuil, on rentre directement dans le salon où trônent les objets, la vie, toute l'atmosphère de cette époque de Serge Gainsbourg. Et l'émotion est très très vive à ce moment-là, en tout cas elle a été pour moi, parce qu'on rentre en fait dans un univers intact d'une époque, mais avec une atmosphère extrêmement mystérieuse. C'est très bas de plafond, c'est noir, feutré. Moi j'ai ressenti beaucoup beaucoup de vibrations, on sent évidemment la présence de Gainsbourg partout. On en apprend autant en fait sur une époque que sur son génie créatif, que sur sa manière de vivre. Mais une autre très belle découverte de cette visite, ça a été à travers la voix de Charlotte Gainsbourg qui vous guide par un casque au travers de la maison, des différentes pièces, le salon, le jardin, la cuisine, les escaliers, les couloirs qui sont des pièces à part entière. Il y a certains moments où on a même peur d'avancer, tellement on sent que Gainsbourg va être là, derrière la porte, une cigarette fumante dans le cendrier. On passe devant cette incroyable salle de bain, dans cette ambiance inimitable, qui est restée totalement, pas du tout sous cloche, mais vraiment dans une atmosphère de l'époque. La chambre à coucher est aussi un moment, mais voilà, il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'on peut ressentir quand on arrive dans cet endroit, avec l'histoire de la vie de Gainsbourg mêlée à celle de Charlotte qui vous décrit ses sentiments, ce qu'elle a vécu avec une immense pudeur et en même temps beaucoup de générosité. Ce qui est assez exceptionnel, c'est que cette expérience n'a pas de fin. Sur la forme, je vous laisse le découvrir parce que c'est ça qui est beau dans cette visite, c'est aussi la sérénité avec laquelle je vous recommande de vivre cette expérience, ne pas trop lire et ne pas trop ne pas trop s'abreuver d'informations avant pour vous garder le plaisir de découvrir. Complétez évidemment cette expérience par la visite du musée où vous trouverez des textes de Gainsbourg écrits de sa main, un courrier exceptionnel de Brigitte Bardot envers la maison de disques, et puis surtout terminé pour que cette expérience soit complète par un verre au Gainsbar qui reprend jusqu'à la moquette de la maison de la rue de Verneuil. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir à vivre cette expérience. Et je tiens à remercier vraiment Charlotte Gainsbourg de cette expérience qu'elle nous permet de vivre, d'avoir laissé sédimenter à travers les années le temps pour nous faire vivre ce merveilleux moment.
Catherine vient elle aussi de sortir de la maison de Serge Gainsbourg et nous la rencontrons dans le musée où elle nous raconte son expérience.
Le bizarrerie du lieu, c'est tout petit. Et ce qui est extraordinaire, c'est l'accompagnement par la voix de Charlotte, ce qu'elle raconte. Parce que du coup, on va à travers certaines époques, quoi. Plusieurs époques de la vie quand elle était petite et puis qu'après, quand elle était plus grande. Il faut être rapide pour avoir une place, mais il faut être très rapide. Ça vaut vraiment le coup, oui. Je conseille énormément.
Victime d'un succès certain, impossible de trouver des billets jusqu'en décembre, mais dès novembre, de nouveaux tickets seront mis en ligne.
Pour les billets maison et musée, parce qu'on a deux billets. Donc les billets musées maison qui se vendent le plus évidemment puisque tout le monde visitait la maison. Et vous avez aussi les billets musées seuls qui vous donnent accès à l'espace musée. C'est les gens qui sont abonnés à notre newsletter, donc la newsletter Maison Gainsbourg, qui seront prévenus directement. On leur mettra, enfin ils auront un petit mail avec l'heure des créneaux et surtout la date de quand est-ce qu'ils pourront réserver.
Enfin, vous pourrez terminer cette visite riche en émotions en vous accordant une pause gourmande dans le bien nommé Gainsbar, dont le décor s'inspire du 5 bis rue Verneuil, qui se mue en piano bar la nuit tombée. On apercevrait presque le fantôme de Serge dans le fond de la salle, la fumée de cigarettes s'échappant d'un cendrier garni.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
Reconnu, bien entendu, Serge Gainsbourg, la javanaise, sa chanson mythique. Donc, Serge Gainsbourg dans le programme en français sur Radio SBS.
Voilà, c'est la fin de notre programme. Merci de nous avoir écoutés. Prochain rendez-vous avec le français sur SBS, c'est mardi à 13h, jeudi à 13h et samedi prochain à 13h également. Et sur notre site internet à tout instant, sbs.com.au/french. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.